La 25e conférence sur le sida s'est tenue à Munich la semaine dernière. Plus de 10 000 personnes y ont participé, entre autres des professionnels de la santé, surtout des scientifiques et autres personnes, et des personnes aussi issues des milieux militants et communautaires. 175 pays étaient représentés. Cette conférence fait toujours le temps de faire le point sur les avancées médicales et sociales sur cette maladie. Cette première pandémie, que je souligne, déclarée par l'Organisation mondiale de la santé dans les années 80, qui a fait 42 millions de morts jusqu'à maintenant et qui affecte encore 39 millions de personnes, dont les deux tiers de ces personnes-là sont dans la région africaine. Pour en parler, je reçois le Dr Jean-Pierre Routy, professeur de médecine, directeur service des maladies virales chroniques, titulaire de la chaire Louis Lowenstein, en hématologie, en oncologie, qui a consacré les deux dernières décennies à apporter des innovations scientifiques et thérapeutiques pour aider à lutter contre les défis de santé liés au sida et aussi aux soins contre le cancer. Bienvenue à l'émission, professeur Dr Routy.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Je sais que vous devez avoir un petit décalage horaire. Vous devez arriver là, de Munich depuis pas trop longtemps.
Oui, mais avec un grand enthousiasme grâce aux données et aussi le fait de se retrouver à plus de 10 000 personnes dans une immense salle. Il y a évidemment des moments d'exaltation, d'encouragement que l'on peut retrouver dans certains concerts rock. Donc, c'est un petit peu la particularité de ce congrès.
D'abord, au niveau scientifique, qu'est-ce qui ressort de cette... on peut peut-être parler au niveau de la de la prévention du VIH.
Il y a eu quelque chose qui va probablement effacer l'idée de vaccin. C'est que des médicaments qui dure très longtemps, à vie longue, qu'on injecte une fois sous la peau tous les 6 mois, ont amené pendant plus d'un an et demi de suivi à aucune infection chez des jeunes filles entre 16 et 25 ans en Afrique du Sud, où c'est le pic de la pandémie. Et donc, il n'y a eu aucune infection. Et c'est rare en médecine qu'on puisse dire 100% de succès à une intervention.
Mais j'ai lu aussi que ce médicament-là, dont le nom m'échappe, mais c'est un médicament qui coûte très cher. C'est ça qui va peut-être rendre la difficulté de le donner à tout le monde, là.
Oui, il y a eu tout de suite à la fois la joie des résultats et le lendemain, évidemment, des considérations financières et la mise en disposition d'un tel succès par la compagnie Gilead, c'est l'Enacapavir. Mm-hmm. Et c'est très important, évidemment, que ça soit disponible. Et là, il y a des tractations, discussions entre la compagnie et les pays en voie de développement, surtout qui en ont le plus besoin, et une efficacité de 100% qui va gêner le développement de vaccins. Car pour faire un vaccin, il faut donner le meilleur de la prévention qui existe. Donc si on donne ce médicament, il faudrait que le vaccin soit au moins efficace à 100% d'emblée, oui. Ce qui techniquement est quasiment impossible à faire ou à faire comme étude même.
Mais justement, alors on appelle ce genre de traitement-là la PrEP, là, une PrEP, une prophylaxie pré-exposition. Ça veut dire que ça prévient là, les infections. C'est ça que j'essaie qui est important de comprendre. Donc, contrairement à un vaccin, c'est vraiment un médicament qu'on prend en prévention et qui a un succès phénoménal. C'est juste triste quand on entend ça, de savoir que c'est pas facilement disponible.
Alors, d'abord, on a plusieurs stratégies de prévention. Un petit peu, c'est né un petit peu de la malaria. Mm-hmm. Quand vous allez en Afrique, vous prenez des médicaments contre la malaria avant de partir et vous êtes protégé. Donc, c'est cette approche-là qui a été pionnier il y a une quinzaine d'années. Et on a à disposition au Québec le Truvada, donc des pilules que l'on devra prendre soit tous les jours si on a beaucoup de rapports sexuels à risque de VIH, ou bien au moins 2 heures avant les rapports pour se protéger. On a aussi au Québec depuis 2 semaines des injections tous les 2 mois au niveau intramusculaire, au niveau des fesses pour protéger de l'acquisition du VIH qui marche. Mais c'est simplement la simplicité et l'efficacité à 100% d'injections sous la peau qui pourraient être faites par la personne elle-même tous les 6 mois. Donc on a 3 stratégies de prévention. Donc 2 sont disponibles au Québec à ce jour et on espère le plus tôt possible la 3e. Mais on a cette stratégie de prévention un peu de type malaria pour le voyageur qui se rend sur le continent africain.
Est-ce qu'on peut parler maintenant au niveau du traitement parce qu'on a un 7e patient là, qui a guéri du VIH?
Oui, ce qui était très beau, parce que d'abord, la réunion se déroulait en Allemagne. Ils avaient été les pionniers à dire contre tout le monde que jamais on n'arrivera à guérir du virus du sida. Ils avaient prouvé que c'était vrai avec un Américain qui travaillait à Berlin, qui avait une leucémie, et ils ont fait une greffe de moelle pour changer le sang, et avec un donneur qui avait un récepteur qui est incompatible avec l'acquisition du VIH. C'est une personne sur 1000, mais il faut à la fois il faut trouver cette personne et aussi de trouver un donneur non apparenté, c'est une chance sur 50 000. Donc c'était à la fois miraculeux que ça existe, mais dur à reproduire. La force du deuxième patient de Berlin, c'est qu'ils ont utilisé la mutation qui empêche l'acquisition était présente chez un des deux parents. Alors qu'auparavant, ce qui avait marché, c'était d'avoir ce qu'on appelle homozygote, c'est d'avoir une modification d'un récepteur d'entrée du virus présent chez les deux parents, et donc c'est très très rare. Tandis que là, on passe, si vous voulez, à 100 fois, 1000 fois plus de chances de trouver un donneur à la fois compatible pour la greffe et qui ait un défaut que chez un de ces deux gènes, ils ont donné par soit sa mère, soit son père. Donc ça multiplie énormément la possibilité de guérir avec des donneurs beaucoup plus faciles à trouver. Mais là, on ne parle pas des VIH, des personnes VIH en général, mais que des personnes qui ont le VIH et qui ont un cancer ou une leucémie qui nécessite une greffe de moelle. Donc c'est quand même une très très petite population, mais biologiquement, on apprend que c'est beaucoup plus faisable, on n'a pas besoin d'une sorte de perfection du donneur, juste la moitié des gènes pourrait bloquer l'acquisition. Donc ça ouvre, si vous voulez, à des recherches pour trouver une stratégie qui ressemblerait à la greffe sans être une greffe pour le futur.
Bien justement, j'allais vous poser la question, va-t-on enfin, parce que ça fait quelques années qu'on en parle, va-t-on enfin trouver ce fameux traitement curatif qui serait peut-être basé là, sur cette possibilité d'une greffe éventuellement, là, sans avoir à faire une greffe d'une personne là?
Alors c'est sûr que maintenant on peut à la place de la greffe faire ce qu'on appelle les CAR T-cells, c'est-à-dire de prendre les globules blancs du patient, de les modifier à l'extérieur de son corps et le réinjecter pour que vraiment les cellules tueuses attaquent la tumeur sans avoir à tout changer le sang. Donc ça commence à Montréal, soit dans les deux centres universitaires, on fait ça depuis 4 à 2 ans. Et donc c'est beaucoup moins toxique et plus facile. Et il y a des recherches d'utiliser ces CAR T-cells dans le VIH. Il y a des études dans des modèles animaux, mais pas encore chez les personnes. Donc c'est un avenir. C'est sûr que c'est l'artillerie très lourde, très chère. Et aussi, on peut s'inspirer des données biologiques qui sont capables de faire ça et de l'imiter par plusieurs médicaments. Donc c'est un petit peu ça les recherches. On se rappelle aussi, c'est moins médiatisé, mais qu'il y a deux femmes dans le monde qui ont guéri toutes seules du VIH. Et une qui vient d'Argentine, qu'on a appelée Esperanza. Donc on essaie aussi de comprendre ces cas exceptionnels, mais des vraies personnes humaines, quel est leur secret pour essayer de le donner aux autres personnes. Donc si vous voulez, ça rentre dans les 7, c'est 5 plus 2 en fait, et 2 spontanément. Et les hommes, c'est que des gens qui ont eu des greffes. Alors là aussi, il y a toute une étude. Est-ce que le sexe, le genre aurait une influence? Donc, beaucoup d'études sur ce thème.
Rapidement, docteur Routy, est-ce qu'on va les atteindre, ces fameux objectifs de l'ONU-SIDA qui vise à éradiquer les nouvelles infections, les fameux 90, 90, 90, là, d'ici 2030?
Ça sera très difficile parce qu'il y a eu une diminution des fonds de 8% donnés par les pays du Nord aux pays du Sud. La pire chose, c'est les guerres et les conflits. Et comme vous le savez, il y en a beaucoup dans des très grands pays avec une haute population infectée comme en Russie. Donc ça va être très difficile au niveau mondial de maintenir cet agenda. Maintenant, avec ces piqûres que l'on peut faire tous les 6 mois, c'est une aide considérable qui va s'ajouter à ça. Et aussi, les nouveaux médicaments peuvent contenir que deux principes actifs, donc de bithérapie, alors qu'avant, ils n'étaient pas assez puissants, il fallait en donner trois. Donc c'est légèrement plus simple, des pilules plus petites et des molécules en soi très puissantes. Donc il y a aussi une amélioration fine, pas majeure, mais beaucoup plus simple et probablement moins chère, puisqu'il n'y aura que deux principes au lieu de trois. Et on espère que ça aussi, parce que quand le virus est bien traité, la personne ne transmet plus le virus sexuellement, c'est le U égale U ou le I indétectable égale ininfectable, ça reste vrai, il n'y a aucune hésitation là-dessus. Donc si on arrive à traiter tout le monde qui a le virus et à bloquer en même temps l'acquisition, on a les outils de finir l'épidémie. Maintenant, après, c'est une volonté économique, politique, et de trouver des personnes souvent persécutées, mises sur le côté de la société. Donc là aussi, c'est difficile parce que les populations les plus touchées sont les gens pauvres, les gens qui ont une sexualité différente. Et donc, politiquement, ça dépend des politiques de chaque pays.
Docteur Jean-Pierre Routy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
À bientôt.
À très bientôt.